Jean-Marie Guyot, esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Livre 1, chapitre 3. Dans quelle mesure le mobile de l'activité peut créer une sorte d'obligation? Pouvoir et devoir. Après avoir établi ce principe qui nous paraît essentiel, la fécondité morale, il nous reste à voir de quelle manière et sous quelle forme psychologique elle se manifeste. L'être est-il porté à se répandre vers autrui par la nature même de sa volonté? Ou est-il simplement sollicité par l'attrait d'un plaisir spécial, plaisir de la sympathie, de la louange, etc.? Nous verrons ici encore que l'étude de la dynamique mentale a été souvent élémentaire et incomplète dans les écoles anglaises et positivistes. Nous nous placerons successivement aux trois points de vue de la volonté, de l'intelligence et de la sensibilité. Premièrement, existence d'un certain devoir impersonnel créé par le pouvoir même d'agir. D'abord, comment mouvoir la volonté sans faire appel ni à un devoir mystique, ni à tel ou tel plaisir particulier? Ce qu'il y a de vrai et de profond dans la notion, mal élucidée, du devoir moral peut subsister, croyons-nous, même après l'épuration que lui a fait subir la théorie précédemment esquissée. Le devoir se ramènera à la conscience d'une puissance intérieure. Sentir intérieurement ce qu'on est capable de faire, c'est par là même prendre la première conscience de ce que l'on a le devoir de faire. Le devoir n'est autre chose qu'une surabondance de vie qui demande à s'exercer, à se donner. On l'a trop interprété jusqu'ici comme le sentiment d'une nécessité ou d'une contrainte. C'est en même temps celui d'une puissance. Toute force qui s'accumule crée une pression sur les obstacles placés devant elle. Tout pouvoir produit une sorte d'obligation qui lui est proportionnée. Pouvoir agir, c'est devoir agir. Chez les êtres inférieurs, où la vie intellectuelle est entravée et étouffée, il y a peu de devoirs, mais c'est qu'il y a peu de pouvoir. L'homme civilisé a des devoirs innombrables, c'est qu'il a une activité très riche à dépenser de mille manières. À ce point de vue, rien de mystique dans l'obligation morale. Elle se ramène à cette grande loi de la nature: la vie ne peut se maintenir qu'à condition de se répandre. Il est impossible d'atteindre sûrement un but quand on n'a pas le pouvoir de le dépasser. Et si on soutient que le moi est à lui-même son propre but, c'est encore une raison pour qu'il ne puisse se suffire à lui-même. La plante ne peut pas s'empêcher de fleurir. Quelquefois, fleurir pour elle, c'est mourir. N'importe, la sève monte toujours. La nature ne regarde pas en arrière pour voir ce qu'elle abandonne. Elle va son chemin, toujours en avant, toujours plus haut. Deuxièmement, existence d'un certain devoir impersonnel créé par la conception même de l'action. De même que la puissance de l'activité crée une sorte d'obligation naturelle ou d'impulsion impérative, de même l'intelligence a par elle-même un pouvoir moteur. Quand on s'élève assez haut, on peut trouver des motifs d'action qui n'agissent plus seulement comme mobiles, mais qui, en eux-mêmes et par eux-mêmes, sans intervention directe de la sensibilité, sont des moteurs de l'activité et de la vie. Nous pouvons appliquer ici une importante théorie, celle qu'un philosophe contemporain a proposée sur les idées-forces. L'intelligence et l'activité n'apparaissent plus de nos jours comme séparés par un abîme. Comprendre, c'est déjà commencer en soi-même la réalisation de ce qu'on comprend. concevoir quelque chose de mieux que ce qui est, c'est un premier travail pour réaliser cette chose. L'action n'est que le prolongement de l'idée. La pensée est presque une parole. Nous sommes portés avec tant de force à exprimer ce que nous pensons que l'enfant et le vieillard, moins capables de résister à cette contrainte, pensent tout haut. Le cerveau fait naturellement mouvoir les lèvres. C'est de la même façon qu'il fera agir, qu'il fera mouvoir les bras et le corps tout entier, qu'il dirigera la vie. Il n'y a pas deux choses, conception du but, effort pour y parvenir. La conception même, répétons-le, est un premier effort. On pense, on sent et l'action suit. Nul besoin dès lors d'invoquer l'intermédiaire d'un plaisir extérieur. Nul besoin de moyen terme ni de pont pour passer de l'une à l'autre de ces deux choses, pensée, action. Elles sont au fond identiques. Ce qu'on appelle obligation ou contrainte morale n'est dans la sphère de l'intelligence que le sentiment de cette radicale identité. L'obligation est une expansion intérieure, un besoin de parfaire nos idées en les faisant passer dans l'action. Celui qui n'agit pas comme il pense, pense incomplètement. Aussi, sent-il qu'il lui manque quelque chose, il n'est pas entier, il n'est pas lui-même. L'immoralité est une mutilation intérieure. Chacun des mouvements de notre esprit soulève le corps. Ne pas agir selon ce qu'on croit le meilleur, c'est ressembler à quelqu'un qui ne pourrait rire quand il est joyeux, ni pleurer quand il est triste, qui ne pourrait enfin rien exprimer au dehors, rien traduire de ce qu'il éprouve. Ce serait le suprême supplice. On a donc trop distingué la volonté de l'intelligence, de telle sorte qu'on a ensuite éprouvé le besoin de mouvoir exclusivement la volonté au moyen de mobiles sensibles. Mais les mobiles extérieurs n'ont pas à intervenir aussi longtemps que suffit le mécanisme interne de la pensée et de la vie. On peut dire que la volonté n'est qu'un degré supérieur de l'intelligence, et l'action, un degré supérieur de la volonté. Dès lors, la moralité n'est autre chose que l'unité de l'être. L'immoralité, au contraire, est un dédoublement, une opposition des diverses facultés qui se limitent l'une l'autre. L'hypocrisie consiste à arrêter l'expression naturelle de sa pensée et à y substituer une expression contraire. En ce sens, on pourrait dire que l'immoralité est essentiellement hypocrisie et conséquemment arrêt dans le développement de l'être. Troisièmement, existence d'un certain devoir impersonnel créé par la fusion croissante des sensibilités et par le caractère plus sociable des plaisirs élevés. Une nouvelle espèce d'obligation dérive de la nature même de la sensibilité, qui tend à se transformer par l'effet de l'évolution. Les plaisirs supérieurs, qui prennent une part chaque jour plus grande dans la vie humaine, plaisirs esthétiques, plaisirs de raisonner, d'apprendre et de comprendre, de chercher, etc., requièrent beaucoup moins de conditions extérieures et sont beaucoup plus accessibles à tous que les plaisirs proprement égoïstes. Le bonheur d'un penseur ou d'un artiste est du bonheur à bon marché. Avec un morceau de pain, un livre ou un paysage, vous pouvez goûter un plaisir infiniment supérieur à celui d'un imbécile dans une voiture armoriée, traînée par 4 chevaux. Les plaisirs supérieurs sont donc à la fois plus intimes, plus profonds et plus gratuits, sans l'être toujours entièrement. Ils tendent beaucoup moins à diviser les êtres que les plaisirs inférieurs. Ainsi, par une évolution naturelle, le principe d'une grande partie de nos plaisirs semble remonter du dehors au dedans. Le sujet sensible peut trouver dans sa propre activité, et parfois indépendamment des choses, une source variée de jouissance. S'en suivra-t-il qui se renfermera en lui-même et se suffira, comme se suffisait le sage stoïcien ? Loin de là. les plaisirs intellectuels ont ce trait remarquable qu'ils sont à la fois les plus intérieurs à l'être et les plus communicatifs, les plus individuels et les plus sociaux. Mettez ensemble des penseurs ou des amis du beau, pourvu qu'il n'y ait pas entre eux de rivalité personnelle. Ils s'aimeront beaucoup plus vite et en tout cas plus profondément que d'autres hommes. Ils reconnaîtront tout de suite qu'ils vivent dans le même monde, celui de la pensée. Ils se sentiront une même patrie. Ce lien qui s'établira entre eux liera aussi leur conduite et leur imposera dans leur rapport réciproque une espèce d'obligation particulière. C'est un lien émotionnel, une communauté produite par l'harmonie complète ou partielle des sensibilités et des pensées. Plus nous allons, plus les plaisirs humains semblent prendre un caractère social et sociable. L'idée devient une des sources essentielles du plaisir. Or, l'idée est une sorte de contingent commun à toutes les têtes humaines. C'est une conscience universelle où sont réconciliées plus ou moins les consciences individuelles. La part de l'idée augmentant dans la vie de chacun, il se trouve que la part de l'universel augmente et tend à prédominer sur l'individuel. Les consciences deviennent donc plus pénétrables. Celui qui vient aujourd'hui au monde est destiné à une vie intellectuelle beaucoup plus intense qu'il y a 100 000 ans. Et pourtant, malgré cette intensité de sa vie individuelle, son intelligence se trouvera, pour ainsi dire, beaucoup plus socialisée. Précisément parce qu'elle est bien plus riche, elle possédera beaucoup moins en propre. De même pour sa sensibilité. En définitive, avons-nous dit ailleurs, en commentant Épicure, qu'est-ce qui serait un plaisir purement personnel et égoïste? En existe-t-il de cette sorte et quelle part ont-ils dans la vie? À cette question, toujours actuelle, nous répondrons comme nous avons déjà répondu. Lorsqu'on descend dans l'échelle des êtres, on voit que la sphère où chacun d'eux se meut est étroite et presque fermée. Lorsqu'au contraire on monte vers les êtres supérieurs, on voit leur sphère d'action s'ouvrir, s'étendre, se confondre avec la sphère d'action des autres êtres. Le moi se distingue de moins en moins des autres moi, ou plutôt, il a de plus en plus besoin d'eux pour se constituer et pour subsister. Or, cette espèce d'échelle que parcourt la pensée, l'espèce humaine l'a déjà parcourue en partie dans son évolution. Son point de départ fut bien l'égoïsme, mais l'égoïsme, en vertu de la fécondité même de toute vie, a été porté à s'élargir, à créer en dehors de lui des centres nouveaux pour sa propre action. En même temps, des sentiments corrélatifs à cette tendance centrifuge sont nés peu à peu et ont comme recouvert les sentiments égoïstes qui leur servaient de principe. Nous marchons vers une époque où l'égoïsme primitif sera de plus en plus reculé en nous et refoulé, de plus en plus méconnaissable. À cette époque idéale, l'être ne pourra plus, pour ainsi dire, jouir solitairement. Son plaisir sera comme un concert où le plaisir des autres entrera à titre d'élément nécessaire. Et dès maintenant, dans la généralité des cas, n'en est-il pas déjà ainsi ? Qu'on compare dans la vie commune la part laissée à l'égoïsme pur et celle que prend l'altruisme. On verra combien la première est relativement petite. Même les plaisirs les plus égoïstes, parce qu'ils sont tout physiques, comme le plaisir de boire ou de manger, n'acquièrent tout leur charme que quand nous les partageons avec autrui. Cette part prédominante des sentiments sociables doit se retrouver dans toutes nos jouissances et dans toutes nos peines. Aussi, l'égoïsme pur ne serait-il pas seulement, comme nous l'avons montré, une sorte de mutilation de soi? Il serait une impossibilité. Ni mes douleurs ni mon plaisir ne sont absolument miens. Les feuilles épineuses de l'agave, avant de se développer et de s'étaler en bandes énormes, restent longtemps appliquées l'une sur l'autre, et formant comme un seul cœur. À ce moment, les épines de chaque feuille s'impriment sur sa voisine. Plus tard, toutes ces feuilles ont beau grandir et s'écarter, cette marque leur reste et grandit même avec elles. C'est un sceau de douleur fixé sur elles pour la vie. La même chose se passe dans notre cœur, où viennent s'imprimer, dès le sein maternel, toutes les joies et toutes les douleurs du genre humain. Sur chacun de nous, quoi qu'il fasse, ce sceau doit rester. De même que le moi, en somme, est pour la psychologie contemporaine une illusion, qu'il n'y a pas de personnalité séparée, que nous sommes composés d'une infinité d'êtres et de petites consciences ou états de conscience, ainsi, le plaisir égoïste, pourrait-on dire, est une illusion. Mon plaisir à moi n'existe pas sans le plaisir des autres. Je sens que toute la société doit y collaborer plus ou moins. Depuis la petite société qui m'entoure, ma famille, jusqu'à la grande société où je vis. En résumé, une science vraiment positive de la morale peut, dans une certaine mesure, parler d'obligation. Et cela, d'une part, sans faire intervenir aucune idée mystique, d'autre part, sans invoquer, avec M. Ben, la contrainte extérieure et sociale ou la crainte intérieure. Non, il suffit de considérer les directions normales de la vie psychique. On trouvera toujours une sorte de pression interne exercée par l'activité elle-même dans ces directions. L'agent moral, par une pente naturelle et rationnelle tout ensemble, se sentira poussé dans ce sens et il reconnaîtra qu'il lui faut faire une sorte de coup d'état intérieur pour échapper à cette pression. C'est ce coup d'état qui s'appelle la faute ou le crime. En le commettant, l'individu se fait tort à lui-même. Il diminue et éteint volontairement quelque chose de sa vie physique ou mentale. La morale que nous venons d'esquisser et qui a son principe dans le fonctionnement même de la vie se trouve par là avoir son principe plus avant que la conscience réfléchie dans les profondeurs obscures et inconscientes de l'être, ou si l'on préfère, dans la sphère de la conscience spontanée et synthétique. Le sentiment d'obligation, tel que nous l'avons analysé, peut se ramener en grande partie à cette formule. Je constate en moi, par la conscience réfléchie, des modifications qui ne viennent pas d'elle, mais juste du fond inconscient ou subconscient de moi-même. À travers la sphère lumineuse de la conscience, passent ainsi des rayons partis du foyer de chaleur obscure qui constitue la vie intérieure.